Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Marie Pochon. Bonjour.
Bonjour.
Marie, vous êtes députée de la 3e circonscription de la Drôme et vous êtes avec nous pour nous annoncer donc une soirée qui sera une soirée publique d'échange et d'information autour du thème « Adapter nos forêts face à un climat qui change ». Ça aura lieu le jeudi 10 septembre à 18h à la salle polyvalente de Die. Alors, on peut se poser la question justement, est-ce qu'il y a eu aussi cet épisode d'été d'incendie qui vous a motivé pour organiser cette soirée ?
Alors, en vérité, on y réfléchissait avec mon équipe depuis un peu plus longtemps, puisque depuis que je suis députée, depuis 2022, je travaille de manière transpartisane avec des députés de tous bords politiques, de gauche, mais également du bloc macroniste, sur une loi gestion forestière face au changement climatique, puisque ce qu'on observe au global, sans regarder ce qui s'est passé cet été, c'est un dépérissement général de nos forêts françaises. C'est-à-dire que en 10 ans, la forêt française a vu sa capacité à stocker le carbone, par exemple, diminuer par 2. Et par ailleurs, c'est un dépérissement d'environ 125% de la forêt que l'on a observé ces 10 dernières années. C'est un doublement de la mortalité qu'on a vu en 10 ans. C'est lié non seulement aux incendies de forêt, mais c'est également lié aux sécheresses, aux canicules. C'est lié également aux scolytes, c'est-à-dire aux maladies qui viennent affecter des arbres qui sont déjà affaibli par des conditions climatiques extrêmes. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une forêt, ça se regarde à 100 ans, 150 ans, et que le climat change tellement vite que les essences qui sont aujourd'hui, qui constituent la forêt française, ne s'adaptent pas aussi vite à ce climat qui change. Et donc nous, on avait travaillé sur un certain nombre de mesures en écoutant les forestiers, les coopératives forestières, en écoutant les communes forestières également, depuis plusieurs années, à une proposition de loi de compromis, hein, bien évidemment, hein, qui va peut-être pas assez loin, mais en tout cas qui propose une gestion durable des forêts pour l'avenir, donc qui concernerait notamment la forêt domaniale. Pour autant, on a tous donc cette proposition de loi, on a enfin abouti à un accord entre des députés de familles politiques qui sont tout à fait différentes en juin, et donc nous avons présenté cette proposition de loi en juillet dernier, je ne sais plus à quelle date exactement. On a fait une conférence de presse début juillet pour présenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'elle va pouvoir être étudiée bientôt, notamment cet automne. D'ailleurs, dans la dernière interview de Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, elle parle de cette proposition de loi et elle dit que ça fait partie des sujets qui lui semblent prioritaire à placer à l'ordre du jour. Donc on est ravis de ce soutien ministériel. On aimerait bien qu'il soit interministériel au vu de ce qui est en train de se passer. Et donc on va pousser pour l'examen de cette proposition de loi dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale. Et en parallèle, effectivement, l'été qu'on vient de passer avec plus de 100 000 hectares de forêts qui ont brûlé, qui montrent bien la fragilité de nos forêts face aux impacts des changements climatiques, dont font partie les feux de forêt, bien évidemment, devraient sonner l'alarme générale et faire en sorte qu'enfin on se préoccupe de la gestion forestière et qu'on ne laisse pas ça à la simple capacité à produire le maximum de bois au plus vite, mais qu'on réfléchisse à long terme pour pouvoir garder une forêt qui est vivante, qui est productive et qui puisse accueillir correctement la biodiversité.
Les interlocuteurs face à vous et les partis politiques pour réfléchir hein, sur cette situation sont de l'ordre des organismes nationaux, des forêts par exemple, ou des scientifiques aussi qui vous ont éclairé sur certains aspects. Est-ce que vous avez pu tirer justement quelques leçons et de tenter peut-être de pouvoir les appliquer ?
Ouais, en fait, cette proposition de loi, en vérité, elle vient à la suite d'une mission d'information qu'on avait pu mener, qui avait été présidée par une députée macroniste qui s'appelle Sophie Panonacle, dont la rapporteure était Catherine Couturier, députée La France Insoumise de la Meuse. Et moi, j'en étais membre comme, au nom du groupe écologiste. Et donc, pendant 6 mois, on a pu interroger plus d'une centaine d'acteurs de la forêt, que ce soit des forestiers, que ce soit des coopératives forestières, que ce soit des scientifiques, que ce soit des communes, enfin, des élus locaux, que ce soit des citoyens. En fait, on a pu interroger l'ensemble du panel des acteurs de la gestion forestière. Et donc, c'était une mission d'information qui était absolument passionnante. On a même fait des déplacements collectifs à ce propos. Et donc, à la fin de cette mission, on a fait un certain nombre de recommandations, et notamment Catherine Couturier, qui était la rapporteure de la mission. Et donc, c'est à partir de ces recommandations que nous avons élaboré notre texte de loi.
Sera abordé un échange sur la robustesse, justement. C'est une notion qui est anti-économique, hein, puisque ça va à l'encontre d'une réponse rapide à un secteur économique ou d'exploitation. Alors, est-ce que la forêt va devoir aussi avoir un certain aspect
Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à la robustesse de l'ensemble de nos modèles de manière générale. Alors, bien évidemment, de la robustesse des écosystèmes qui sont robustes en tant que tels. C'est-à-dire qu'une forêt, même brûlée, est résiliente et elle va se régénérer dans la majeure partie des cas. De même qu'un écosystème qu'on aura abîmé, qu'on aura pollué, en fait, va se régénérer au fil du temps. La biodiversité est absolument incroyable de ce point de vue. Par contre, l'ensemble de notre modèle économique, effectivement, n'est pas forcément robuste puisqu'on a un culte de la performance immédiate qui atteint certains objectifs, hein, bien évidemment, mais en termes de robustesse, notamment dans un climat qui change, dans des conditions qui sont changeantes, cette question-là, en tout cas, se pose énormément. Et donc, oui, il faut pouvoir, nous, en tant que décideurs politiques, je considère que c'est notre rôle que de mettre tout en œuvre, dans la loi en tout cas, pour assurer la régénération de forêts, d'écosystèmes de manière générale, qui sont la garantie, encore une fois, de nos modèles économiques, de l'ensemble de nos droits et de nos libertés. Et je crois que cet été a été un exemple majeur de tout ce qui nous manquait quand le climat ne suivait plus, en vérité. Et quand on ne peut plus sortir de chez soi, quand on n'a pas la technologie nécessaire pour pouvoir vivre correctement, même à la maison, quand on ne peut plus produire d'électricité, quand il manque de l'eau qui coule du robinet. En fait, là, on voit toutes les limites du système de la performance immédiate et de ses conséquences, puisqu'on sait de quoi c'est la conséquence. C'est la conséquence... d'un modèle économique qui est nourri quasi exclusivement encore aujourd'hui d'énergie fossile.
Vous parlez de cette tendance transpartisane, hein, au sujet de ce projet de loi. Est-ce que il y a des évidences à convaincre pour beaucoup, ou alors est-ce qu'il y a un gros travail encore de parlementaires ou de partis très à droite qui n'ont pas la même optique, hein ?
Alors non, c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis 3 ans à aboutir, parce qu'en fait, les mesures principales qui sont dans notre texte, on les avait dès la fin de la mission d'information, puisqu'on se repose sur les propositions que nous avions faites lors de cette mission d'information. Mais par contre, effectivement, de mettre tout le monde autour de la table, ça, c'est plus compliqué. Il y a des jeux de politique partisane pas très intéressants qui se jouent depuis 4 ans à l'Assemblée nationale. Ce que je constate, c'est une forme de diabolisation, notamment de la France insoumise, qui fait que pour certains députés macronistes, qu'ils soient Horizon, qu'ils soient Renaissance, qu'ils soient Modem, ils ne veulent pas co-signer une proposition de loi parce qu'elle serait portée par une députée de la France Insoumise, par exemple, ce qui est, à mon sens, tout à fait scandaleux, notamment quand ils sont en accord sur le fond. Je ne comprends pas ce blocage-là, mais en tout cas, on y fait face. Moi, j'y fais face sur une autre proposition de loi que je porte, qui est une proposition de loi sur la défense du pastoralisme, travaillée, là encore, avec des députés du Bloc central, et qui refusent aujourd'hui de la signer, tout simplement, parce qu'il y a une des co-signataires qui a beaucoup travaillé avec nous sur le texte, qui est de la France insoumise, et donc il y a cet effet de diabolisation qui est incompréhensible, mais qui existe. Et que je regrette, bien évidemment. Et après, c'est assez compliqué quand même d'avancer au-delà de la forme. Il y a le fond. et un certain nombre de mesures que nous préconisons sur la fin, ou en tout cas la grande régulation des coupes rases, sur les obligations qui sont faites à la diversification des essences, sur également les moyens que nous souhaitons allouer par une planification à long terme à l'ONF ou au CNPF, notamment pour qu'ils aient des agents forestiers supplémentaires pour justement veiller sur nos forêts, gérer les chemins forestiers, etc. Tout cela semble des évidences. Dès qu'il y a un incendie, on va dire « Ah ben nous, on veut des... on devrait faire attention à nos forêts, on devrait les gérer, etc. » En vérité, dès qu'il s'agit de parler sous-sous et de parler financement, pour qu'on ait des agents de terrain qui viennent entretenir les chemins forestiers, mettre en place des réserves d'eau, des FCI, entretenir nos forêts de manière générale, il n'y a plus personne à chaque examen du budget. Et donc, c'est des vraies lignes politiques différentes, effectivement, entre la droite qui refuse les investissements et la gauche qui souhaite pérenniser un service public de la forêt qui soit solide, justement, pour faire face aux impacts des changements climatiques. C'est une vraie différence. Et on l'a vu notamment en 2023, donc la même année que cette mission d'information, on a voté une proposition de loi sur la prévention et la lutte contre le risque de feux de forêt. C'était suite justement aux incendies massifs en Gironde à l'été 2022. Et à chaque fois qu'on a fait des propositions allant au-delà de la gestion de l'incendie, mais allant dans la gestion forestière, de la diversification des essences et de la couverture du massif forestier, en tout cas, c'était un refus d'étudier ce type de proposition qui n'était pour eux pas lié au risque incendie. Alors que bien évidemment qu'un massif forestier en monoculture de pins d'Autriche, ben, c'est un peu une boîte d'allumettes quand convergent la sécheresse, la canicule, le vent, et qu'il faut réfléchir aussi à une autre gestion forestière pour pouvoir se prémunir aussi du risque d'incendie de forêt.
Il y a la notion de la propriété hein, dans la Constitution. Effectivement, les forêts françaises sont en grande majorité des domaines privés. Comment convaincre justement ces propriétaires, si projet de loi, être amené à changer aussi leur notion ?
Bah, de toute façon, enfin, la loi n'a pas à convaincre, elle a à s'appliquer. Et donc effectivement, un propriétaire d'une forêt... n'a pas à être convaincu, il a appliqué la loi. Et notamment, je le dis, je le redis, en matière d'obligation légale de débroussaillement, c'est des obligations qui existent depuis des années, et qu'effectivement, il y a peu de propriétaires forestiers qui s'en sont vraiment souciés. D'abord parce qu'on a un vrai problème d'émiettement de la propriété forestière, c'est-à-dire que les forêts, les parcelles de forêt, comme tout, dans les héritages, souvent, sont divisés, redivisés, subdivisés entre tous les différents héritiers. Et souvent, on peut être propriétaire d'un hectare, de deux hectares de forêt par-ci, par-là. On ne sait pas trop où c'est. On n'a aucun moyen de le gérer. Et donc ça, c'est un vrai problème, l'émiettement. Et donc notre proposition de loi propose des solutions législatives, en tout cas, pour assurer la préemption, par exemple, de parcelles privées, notamment dans le domanial ou dans la forêt, dans une forêt qui serait gérée par une commune, par exemple. Donc ça, c'est ce type de solution à laquelle il faut arriver, parce que c'est comme ça qu'on va mieux réussir à mieux gérer les forêts. C'est en évitant l'émiettement où on ne sait plus qui est propriétaire de quoi et qui est en capacité de le gérer. Ça, c'est le deuxième sujet. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de propriétaires forestiers qui n'ont pas forcément ni la capacité physique, ni les moyens financiers d'entretenir leurs parcelles. Ça a un certain coût, ça prend beaucoup de temps, ça pousse vite. Là, tout à l'heure, on était à Boulcandiwa et on observait effectivement avec certains forestiers à quel point la broussaille pouvait s'installer rapidement. C'est un sujet majeur et donc je pense que là, il faut aussi doter les pouvoirs publics de moyens pour pouvoir accompagner les propriétaires privés, mais également pour que les communes puissent avoir les moyens de gérer au mieux ces obligations légales de débroussaillement.
Oui, vous parlez du découpage hein, de ces terrains, au point que certaines personnes ignorent elles-mêmes qu'elles sont propriétaires de parcelles. Hein. J'ai lu ça récemment. Et puis, il y a aussi peut-être un autre enjeu, c'est celui du pastoralisme. Est-ce que ça, c'est aussi une des solutions pour justement entretenir le parc, le sol, des sols forestiers ?
Tout à fait. Moi, je crois beaucoup au pastoralisme. Je crois beaucoup au sylvo-pastoralisme. C'est comme ça qu'on appelle la manière de mener un troupeau. dans un couvert forestier. Et donc ça, c'est des pratiques qui existaient beaucoup auparavant, qui existent un peu moins aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, parce que déjà on fait face à une décapitalisation générale du cheptel français. Il y a de moins en moins d'éleveurs et de moins en moins de bêtes de manière générale, et également de moins en moins d'élevage pastoral et extensif. Donc c'est une difficulté qui fait qu'on a moins d'animaux à faire pâturer. Et la deuxième difficulté, notamment sur notre territoire, c'est bien évidemment celle de la prédation, qu'il ne faut pas ignorer en la matière. C'est plus compliqué pour un éleveur d'envoyer ses bêtes dans un massif forestier où il ne pourra pas. Elles ne pourront pas être surveillées, du coup. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre d'éleveurs ne font plus pâturer en forêt. Pour autant, c'est un outil. Ce ne sera pas le seul outil qu'il faudra déployer, effectivement, pour lutter contre les feux de forêt. Dans tous les cas, à partir du moment où, pendant 20 jours successifs, on atteint des températures qui ne vont pas en dessous de 35 degrés, qu'on est dans un qu'il n'a pas plu depuis 2 mois, etc., dans tous les cas, on a des forêts qui sont fragilisées et qui sont à risque de la moindre étincelle. Et donc, même pâturer, ça ne préviendra pas de l'incendie. Par contre, c'est un outil de prévention et il faut utiliser toute la palette des outils de prévention, c'est-à-dire des pistes DFCI, c'est-à-dire des réserves effectivement en eau, c'est-à-dire le sylvopastoralisme, et c'est-à-dire également des moyens qui soient conséquents à la fois pour les gestionnaires forestiers et à la fois pour les services de secours et d'incendie. On a bien pu voir cet été les manques qu'il pouvait y avoir en termes de moyens pour que nos sapeurs-pompiers puissent mener à bien leur mission.
Qui commence d'ailleurs un mouvement de grève à partir du 8 septembre. Je ne sais pas si vous êtes allé sur d'autres terrains que la Drôme pour constater un peu ces destructions d'incendie. Est-ce que vous êtes allé auprès des habitants du Diwa pour peut-être aussi connaître leurs sentiments et peut-être un désir ou de nouvelles propositions qu'ils, eux, trouvent importantes peut-être pour l'avenir de ce paysage?
Je pense que tout le monde est très attaché à cette forêt. Dans le Diwa, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis beaucoup rendue dans le Diwa, bien évidemment, pendant les incendies. Je m'y rendais déjà régulièrement avant et je m'y rendrai encore après, bien évidemment. Mais c'était important dans un moment comme celui-là, qui est tout à fait historique. Moi, de mon vivant, en tout cas, on n'a jamais vécu ça dans la Drôme, un incendie pareil. Et donc, bien évidemment que c'était important d'être aux côtés des habitants dans un moment pareil. Et j'ai pu échanger avec un certain nombre d'entre eux, et dont le sentiment au moment de l'incendie, mais l'incendie a duré un petit peu tout l'été entre celui de Justin et celui du Claps qui a suivi au mois d'août. J'ai senti à la fois beaucoup de colère, beaucoup de tristesse également. C'est une forêt qu'on ne reverra plus de notre vivant. Et il faut s'en rendre compte, même si on plante demain tout ce qu'il faut, etc. La forêt telle qu'on la voyait, on ne la reverra plus de notre vivant. Peut-être qu'elle sera comme ça dans un siècle et demi, ou dans au moins un siècle. Donc en tout cas, on ne la verra pas. Et donc c'est dur, c'est un deuil aussi qu'il faut faire d'un paysage qui change et qui a changé. Et ça, c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien y faire. Et donc ça, c'est dur. Et je l'ai constaté, cette tristesse-là, et je l'ai partagée, bien évidemment, parce que c'est extrêmement dur de prendre conscience de tout cela. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, et ce que tout le monde a pu noter, c'est l'immense solidarité, l'immense esprit d'entraide qui a existé dans ce moment-là. Je pense qu'on peut en être immensément fier. Ça donne... C'est extrêmement précieux. Tous les sapeurs-pompiers que j'ai pu rencontrer, qui intervenaient, qui venaient souvent de loin, qui ne connaissaient pas le territoire, ont dit à quel point ils avaient été merveilleusement accueillis. Et que pour un certain nombre, ils faisaient même la blague en disant d'habitude on perd du poids sur nos interventions incendies, cette fois-ci on va prendre quelques kilos, tellement il y avait d'aide, tellement il y avait de volonté de solidarité. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je pense qu'on l'a tous senti, notamment celles et ceux qui étaient les plus mobilisés. Et ici, je veux remercier les élus locaux qui ont été sur le front mais tout l'été, et qui font un travail incroyable en termes de gestion, en termes de communication aux habitantes et aux habitants. Et vraiment, c'est absolument incroyable. Remercier les agriculteurs, remercier les chasseurs, remercier les bûcherons, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés sur le terrain. Bien évidemment, tous les bénévoles qui ont fait des dons, qui ont géré le gymnase, qui ont géré toutes les collectes et les distributions alimentaires et les couchages également pour les sapeurs. Et bien évidemment, l'ensemble des sapeurs-pompiers qui, pour beaucoup, ont pris sur leur congé, parce que c'est sapeurs-pompiers volontaires, qui parfois ont pu partir sur leur temps de travail, mais pour beaucoup venaient sur leur temps de congé pour venir protéger la forêt drômoise et nous protéger toutes et tous. Je pense qu'on leur doit beaucoup de choses et qu'on devra les remercier et devra ne pas oublier en tout cas tout ce qu'ils ont fait pour nous cet été, tout ce qu'ils font pour nous d'ailleurs tout le reste de l'année et que parfois on oublie dans les mois à venir, et notamment lors de l'examen du budget à l'Assemblée nationale.
Justement, j'allais y venir, hein, ce budget en préparation. Vous allez être très vigilant aussi sur les budgets qui vont être votés, et notamment ce qui concerne le climat et peut-être cette canicule. Il y a évidemment forcément des engagements à faire.
Oui, après, j'ai du mal à me rendre compte. Pour l'instant, on n'a pas les copies budgétaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la direction du gouvernement.
On ne sait pas trop, parce qu'il y a
Monsieur Le Cornu nous a écrit un courrier, hein,
oui.
en nous appelant à la responsabilité, etc. Et donc voilà, après, la question, c'est qu'est-ce que c'est la responsabilité face à un monde qui est en train de s'effondrer globalement et face à une catastrophe climatique qui est aussi puissante et dont on se rend compte qu'on n'est pas prêt au final, et ça a été admis par Monsieur Nunez face au syndicat de sapeurs-pompiers d'ailleurs cet été, ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'il a admis avoir été dans une posture, c'est-à-dire avoir menti sur les moyens de la sécurité civile en disant qu'on était prêt et qu'on était en capacité effectivement de lutter contre 100 départs de feu par jour au mois de juillet, alors que c'était faux, il le savait, il a menti pour être dans la posture. Tout ça est absolument scandaleux et effectivement on va se retrouver dans une grande difficulté au moment du budget, c'est-à-dire qu'on a à la fois le mur de la dette créé par 10 ans de macronisme, 1000 milliards de dettes supplémentaires du fait de cadeaux fiscaux à certains copains, qui fait qu'effectivement on a moins les moyens d'investissement qu'on pouvait les avoir auparavant. Un blocage total à la fois du centre, de la droite, de l'extrême droite sur des prélèvements supplémentaires, non pas sur la majorité des Français, mais sur l'extrême minorité qui, effectivement, ne paye pas sa juste part, sa juste contribution aux moyens collectifs de faire face aux crises climatiques. Et par ailleurs, des défis qui sont en train d'exploser. Le défi climatique en premier lieu, je pense qu'on l'a tous senti, le défi de la sécurité civile, le défi de la gestion forestière, le défi de nos services publics. Je pense à tous les élèves qui font leur rentrée, on fait cette interview le jour de la rentrée aujourd'hui, et potentiellement dans des classes au collège et au lycée notamment bondées. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc on a besoin d'un mouvement d'investissement pour l'avenir, de créer de la bonne dette, parce que la dette climatique, on va la payer 4 fois, 5 fois plus cher que les investissements qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et donc, moi, c'est ce que je prône. On va mener cette bataille-là de l'investissement pour préparer l'avenir. Et sans doute qu'on fera face à une majorité macroniste Rassemblement National qui s'y opposera, puisque c'est ce qu'ils font depuis 4 ans. Et on mènera la bataille jusqu'au bout.
Jérémy Chaussat, vous êtes attaché parlementaire auprès de Marie Pochon. Ma question était, quelle est votre activité dans cette fonction ?
Alors déjà, on est 3 dans son équipe. Il y a une personne à Paris, Clotilde, et on est 2 personnes dans la Drôme, Perrine et moi-même. Et pour décrire ce qu'on fait plutôt dans la Drôme, moi je vais surtout gérer l'agenda de la députée, parce qu'elle partage son temps entre Paris et la Drôme. Généralement, c'est dans une même semaine, la semaine est partagée en 2. Et quand on est dans la Drôme, moi je vais organiser tous les rendez-vous qu'elle va avoir, qui vont être en lien avec aussi ce qui se fait à Paris. Par exemple, aujourd'hui, on était à Boulcandivois pour la rentrée, donc on a parlé d'éducation. Après, on a rencontré l'association des truites d'Ivoise qui a fait des pêches de sauvegarde dans des cours d'eau qui étaient à sec cet été. Donc, on est plus sur la problématique du partage de l'eau. Et puis, on va suivre ces dossiers locaux avec Perrine continuellement toute l'année. Et puis, je m'occupe aussi de sa communication pour qu'elle puisse décrire à tous les habitants de la circonscription ce qu'elle fait au quotidien de son mandat. Et par ailleurs, on va recruter une personne en communication prochainement et on va publier l'offre sur ces réseaux bientôt. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils suivent.
Donc en quelque sorte, vous êtes sur un travail de terrain.
Travail de terrain, et après on fait le lien avec Paris, où là Clotilde et des personnes qui viennent généralement compléter l'équipe régulièrement vont travailler eux sur la partie législative, donc qu'est-ce qu'on va voter à l'Assemblée nationale, quelles lois on va proposer, quels amendements on va faire sur des textes qui sont discutés à l'Assemblée nationale. Donc c'est des remontées de la Drôme qui nourrissent la réflexion de la députée à Paris.
Ce jeudi 10 septembre, donc, ce sera des échanges avec un public. Il y aura une écoute aussi de ce public.
Alors, c'est tout à fait l'objet. Alors, effectivement, moi, je voulais depuis longtemps présenter la proposition de loi qu'on a construite de manière transpartisane sur la gestion durable des forêts. Mais bien évidemment, après l'été qu'on vient de passer, ça me semblait évident qu'il faille ouvrir le débat à la population et aussi aux gestionnaires forestiers. Et donc, c'est pour ça qu'on a conçu la soirée en deux parties. Donc, je peux en informer les Divois et les Divoises d'ores et déjà. C'est-à-dire que la première partie sera dévolue à un échange avec les différents gestionnaires forestiers. On aura la chance d'avoir le directeur de l'ONF Drôme-Ardèche à nos côtés, le directeur également du CNPF, le Centre National de la Propriété Forestière. C'est moins connu, mais c'est une instance qui fédère l'ensemble des propriétaires privés de la forêt, c'est-à-dire 75% de la forêt française. Et donc, c'est des acteurs qui sont absolument essentiels, qui eux aussi sont en manque de moyens. En tout cas, on fait des coupes budgétaires également sur les budgets du CNPF et non pas seulement de l'Office national des forêts. Et enfin, on aura également un représentant des communes forestières qui sera présent. Et donc, l'idée, c'est qu'il puisse présenter les enjeux de la forêt d'Ivoise, mais pas que. L'enjeu, c'est aussi d'élargir un petit peu des moyens que eux mettent en œuvre en tant que forestiers dans l'anticipation et l'adaptation de nos forêts face au changement climatique, et qu'ensuite on puisse avoir un échange avec la salle. Moi, j'ai pu voir des différents déplacements que j'ai pu faire pendant l'été en plein incendie ici dans le Divois, que beaucoup de citoyennes et citoyens se posaient beaucoup de questions sur la gestion forestière. Certains voulaient aller replanter immédiatement des nouveaux arbres, certains doutaient de l'efficacité, par exemple, de l'Office national des forêts sur la forêt domaniale. Moi, je crois que c'est important d'avoir un dialogue franc et direct, de pouvoir poser ces questions à des professionnels, à des gens qui sont attachés à nos forêts, qui ont une expertise également et qui sont sur le terrain toute l'année. Et je crois que c'est important d'avoir cet échange direct. Donc, on va voir comment on va animer tout cela, mais ce sera la possibilité, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent venir, de pouvoir poser leurs questions et d'obtenir des réponses.
À 18h, hein, cela durera environ 2 heures, un peu plus peut-être. Après, il y aura une clôture avec un petit apéritif.
Tout à fait.
C'est aussi le moment pour pouvoir s'exprimer. Alors, ce public attendu, on peut imaginer que ce seront essentiellement des propriétaires terriens ou forestiers, ou pas forcément?
C'est compliqué de savoir qui va venir, puisque tout le monde est invité.
Justement, est-ce qu'il y a une inquiétude de ces propriétaires à savoir aussi pour l'avenir de leur concession forestière ? Est-ce que ça, c'est...
Je ne pense pas que ce soit... Il y aura sans doute des propriétaires forestiers qui se demandent comment mieux gérer leur forêt et comment... effectivement gérer au mieux leurs parcelles, ce sont des questions qui sont légitimes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne seront pas propriétaires forestiers et qui viennent parce qu'ils sont la forêt, on la voit tous au quotidien quand on habite dans la Drôme. C'est plus de la moitié du territoire drômois qui est constitué de forêts, 55% je crois. Et dans le Divois, on est commune par commune à peu près 80% d'enforestement. Donc c'est quelque chose qui est notre quotidien. Et donc c'est normal qu'il y ait un intérêt collectif pour comprendre comment fonctionnent les forêts, c'est quoi une forêt aussi, comment on la gère, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, où est-ce qu'on a le droit de faire des trucs et où est-ce qu'on n'a rien, enfin, on n'a pas le droit de faire des choses. C'est normal de se poser plein de questions. Donc, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui sont curieux, et c'est absolument légitime. Et puis, des gens qui sont aussi potentiellement inquiets. Je crois que ce qu'on a vécu collectivement, encore une fois, cet été dans la Drôme, c'est totalement historique. Pour des personnes de ma génération, on n'avait jamais connu ça. Et donc, d'être légitimement choqué, anxieux par rapport à l'avenir, c'est normal. Et j'espère qu'en tout cas, les échanges qu'on pourra avoir lors de cette soirée pourront aiguiller vers l'action, savoir que faire quand on est citoyen et qu'on a envie de s'engager pour la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est déjà une bonne question. Et puis mieux comprendre le fonctionnement général de la forêt, parce qu'elle nous entoure et finalement, on ne la connaît pas beaucoup, quoi.
Selon vous, quels seraient les supports d'information qui puissent vraiment renseigner le public ? Parce qu'actuellement, dans les médias, il y a justement des médias d'extrême droite qui portent la confusion. Donc, au bout d'un moment, les Français ne savent plus trop quoi croire. Donc, je voulais savoir si, selon vous, il existe des médias dignes par rapport à l'information.
Alors déjà, il faut se bagarrer contre la concentration des médias entre quelques mains que ce soit d'ailleurs. Je pense que c'est toujours dangereux. Effectivement, c'est ce qu'on constate, notamment vis-à-vis de l'Empire Bolloré, hein, qui a un agenda civilisationnel, un agenda politique très clair, très affirmé, et qui, à mon sens, est très dangereux à partir du moment où il y a un tel monopole qui se constitue dans les médias. Et donc, c'est quelque chose que nous combattons, et notamment ma collègue Sophie Tallier-Polian a déposé une proposition de loi pour lutter contre l'accaparement des médias. Malheureusement, là, pareil, on s'est pris une petite opposition de la part des macronistes coalisés avec l'extrême droite face à cette proposition de loi qui, à mon sens, est une vraie protection collective et protection de la démocratie. Maintenant, on a un certain nombre de médias auxquels moi je fais confiance. Après, je ne sais pas si ça veut dire que c'est forcément des médias de confiance. D'abord, le service public.
Tant décrié, justement, par l'extrême droite.
Tant décrié que certains veulent effectivement totalement démanteler. Moi, je crois qu'il faut soutenir un service public de l'information. Je crois qu'il faut essayer de lui faire confiance. Il faut lui donner des moyens pour fonctionner. Et je crois qu'on a besoin de sorte de socle commun, de base commune factuelle sur laquelle on serait tous d'accord et sur laquelle on peut avoir des opinions différentes, mais en tout cas qu'on ne remette pas en cause les faits. Moi, j'ai un peu peur de cette distorsion de la réalité dans laquelle on vit, où même les faits factuels ne sont plus les mêmes pour tout le monde. Et je pense que ça complique énormément les discussions qu'on peut avoir derrière quand on doit vivre ensemble dans une même commune. Et puis après, il y a des médias indépendants que je trouve font une information d'excellente qualité. Je pense à Mediapart.
Reporter.
À Reporter, par exemple, tout à fait. Je pense aux radios associatives locales qui font un très beau travail également, dont Radio Diwa mais il y a aussi Radio Saint-Ferréol. Il y a d'autres radios comme ça locales qui sont absolument essentielles parce qu'elles permettent de faire vivre l'actualité locale. Je pense aux journaux locaux, aux JDD, aux Crétois, qui font un gros travail également et qui sont menacés aujourd'hui. Donc moi, je peux qu'encourager tout le monde à s'abonner à ces journaux locaux d'information parce que ça nous permet vraiment, c'est ce qui nous permet vraiment de vivre ensemble à l'échelle locale. Et voilà. Puis après, il y a des presses, il y a des journaux qui sont plus ou moins partisans. Moi, je lis par exemple beaucoup Libération, L'Humanité. Je trouve qu'ils font des papiers intéressants, fouillés et d'investigation dont on a besoin et qui manquent de plus en plus dans la presse, bien malheureusement.
Le temps étant imparti, et puis vous partez pour d'autres rendez-vous, j'imagine. Marie Pochon, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venue sur Air d'Ivoire pour nous annoncer donc cette date du 10 septembre à 18h à la salle polyvalente avec ce thème « Adapter nos forêts face à un climat qui change ». Ça sera une entrée libre, j'imagine.
Tout à fait, c'est gratuit, il y a un apéro à la fin et des échanges passionnants entre les deux.
Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci Jérémy.
Merci.
And the day has arrived.